Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, Alliance Plus, fréquence 103.1 à Nîmes, et qu'on peut également écouter sur Internet, sur le site www.fmplus.org. Pour mon émission Jardin d'Isis, j'ai souhaité, dans le cadre du Printemps des Poètes, rendre hommage à notre ami Jean Joubert, poète, né à Châtelette-sur-Loing, dans le Loiret, en 1928, décédé le 28 novembre 2015. Il a été un des fondateurs de la Maison de la Poésie Languedoc-Roussillon et jusqu'à son décès, pendant de nombreuses années, son président. Cette maison porte actuellement son nom, Maison de la Poésie Jean Joubert. Je lirai déjà deux nouvelles extraites de « Clair dans le miroir », un recueil paru en 2004 aux éditions Mélisse, qui rassemble 12 nouvelles de l'auteur. Dans la première nouvelle, nous retrouvons un univers cher à Jean Joubert, la librairie. Dans la librairie. Chaque matin, vers 10 heures, un homme franchissait le seuil de la librairie. Salué d'un petit geste de la main, la libraire assise derrière son comptoir. « Bonjour, madame !» Et progressant entre les tables chargées de livres, il se dirigeait vers le fond du magasin. À ses vêtements, il n'était pas difficile de reconnaître l'un de ces clochards qui, à la belle saison, investissait la place principale de la ville, où, installé autour de la fontaine, et sur les marches du théâtre, ils jouaient avec leurs chiens, palabraient, buvaient du vin rouge et de la bière. L'homme pouvait avoir la quarantaine. Avec son pantalon de velours poussiéreux, sa chemise délavée et ses espadrilles qui montraient la corde, certes, il ne payait pas de mine, mais sous la chevelure hirsute qui lui barrait le front, le regard était vif, le sourire éclatant et, somme toute, on pouvait dire qu'il avait une bonne tête. C'est ce que pensait la libraire, tout en le surveillant malgré tout du coin de l'œil. Que pouvait-il bien faire là-bas, toujours à la même place, penché sur quelques livres, que pourtant il ne donnait pas l'impression de feuilleter. Il restait immobile, avec sur son visage une expression comme de béatitude. Au bout d'une dizaine de minutes, il traversait à nouveau le magasin, saluait la libraire du même geste de la main. « Au revoir, madame !» Et s'éloignait dans la rue. Les premiers jours, la libraire s'était avec prudence assurée que dans ce secteur, aucun livre n'avait disparu. Mais non, ce n'était pas cela. Mais quoi alors ? Elle avait certes connu bien des visiteurs bizarres, mais celui-là, avec ses apparitions régulières et comme rituelles, l'intriguait tout particulièrement. Le septième jour, poussée par la curiosité et n'y tenant plus, elle lui dit à tout hasard, tandis qu'il s'apprêtait à quitter le magasin. « Alors, vous avez trouvé ?» L'homme s'arrêta interdit. « Trouvé ? Je dirais plutôt retrouvé. Retrouvé quoi ?» « Ah, vous allez voir !» Et retournant au fond de la librairie, il revint aussitôt, tenant à la main un album. En avait-il discrètement marqué une page ? C'est sans hésitation qu'il ouvrit le livre et qu'il dit, le visage illuminé de bonheur, « Regardez, est-ce qu'elle n'est pas superbe ? Ses formes, ses couleurs, ah, oh, quelle beauté !» Et il montrait d'un doigt un peu tremblant la photographie d'une orchidée, une fleur géante, sans doute équatoriale, et dont les pétales, aux formes étranges, étaient vivement colorés de rose, d'orange et de rouge. « Je viens chaque matin pour voir si elle est toujours là. Je la regarde, je l'admire. Plus tard, je pense à elle. Elle me tient compagnie. » La libraire songea qu'il y avait quelque chose d'émouvant dans la passion de cet homme, mais aussi que l'odeur qui montait de ses habits n'était certes pas celle d'une orchidée. « Oui, elle est vraiment splendide, dit-elle. Ah, vous voyez, Il referma l'album et avec précaution le remit à sa place. « Eh bien, au revoir, madame, » dit-il, avant de franchir le seuil. « Alors, à demain !» La nouvelle suivante, écrite par Jean Joubert, baigne aussi dans une atmosphère qui lui était familière et nous le retrouvons à sa table d'écriture, une fenêtre au loin. À cette époque-là, j'écrivais une bonne partie de la nuit. Le silence alors régnait sur la ville et délivré des turbulences et des soucis du jour, je sentais mon imagination se mouvoir plus librement. Je m'étais engagée dans un récit qui me passionnait et dont je savais qu'il m'occuperait durant des semaines, des mois peut-être, et qu'il me tiendrait éloignée du monde. Je vivais seule dans une chambre au 5e étage sous le toit. Une lampe basse éclairait ma table de travail située devant l'unique fenêtre. Lorsque je levais les yeux de la page, je voyais l'étendue confuse des immeubles dont les cheminées et les antennes innombrables se découpaient contre le ciel. Le fait de veiller ainsi, comme une sentinelle postée au sommet d'une tour, alors que le monde était livré au sommeil, me procurait un sentiment d'exaltation. Depuis longtemps, j'étais persuadée que, l'époque étant ce qu'elle était, il fallait vivre en marge ou à rebours. Ma lampe proclamait ma différence. La nuit était mon refuge et mon royaume. J'avais cependant remarqué que, dans le panorama qui s'étendait sous mes yeux, une seule fenêtre restait allumée toute la nuit, à une centaine de mètres de distance, et se détachait nettement de l'obscurité. Dans le labyrinthe de ce quartier ancien, aux rues étroites et tortueuses, il était difficile de la situer précisément. D'ailleurs, dans un premier temps, je ne m'en souciais guère, et c'est avec une sorte de tendresse que, m'arrachant à la quête des mots, je constatais la présence de cette lumière insolite dans laquelle je voyais comme un signe de connivence. Ainsi, dans le vaste sommeil de la ville, quelqu'un veillait, homme ou femme, et je me plaisais à imaginer qu'il ou elle était engagé dans quelque aventure singulière. Cette fenêtre m'intriguait de plus en plus. J'aurais aimé savoir qui pouvait être cet esprit fraternel dont me parvenait chaque nuit comme un signal. Ma vue n'était pas excellente et d'autre part, la distance ne me permettait pas de plonger mon regard dans une pièce où pourtant je percevais vaguement une silhouette assise et qui, me semblait-il, lisait ou écrivait. C'était du moins ce que je me plaisais à imaginer, mais je sentais qu'il s'agissait là de désir plus que de certitude. Mon récit s'était brusquement engagé dans une voie périlleuse, semée d'embûches, et je ne progressais qu'avec lenteur et d'horribles chaos. C'est dire que je levais de plus en plus souvent les yeux et que je trouvais dans la contemplation de la mystérieuse fenêtre un divertissement providentiel. Ma curiosité devenait chaque jour plus vive et tournait à l'obsession, à tel point que je me procurais une paire de jumelles qui, je l'espérais bien, me permettraient de pénétrer plus avant dans une pièce dont jusqu'alors je n'avais eu qu'une vision assez floue. Dès que la nuit fut tombée, négligeant mon manuscrit, je braquai mes jumelles sur la fenêtre. Il me fallut tourner à tâtons la molette pour obtenir enfin une image précise. Quelle ne fut alors ma stupéfaction lorsque je découvris que l'homme, assis devant une table sur laquelle, de toute évidence, il écrivait, me ressemblait de manière hallucinante. Même chevelure brune, abondante, même moustache, même physionomie et même manière de s'accouder à la table, un poing contre sa tempe, dans une attitude qui m'était familière. Fascinée, le cœur battant, j'étais confrontée avec un autre moi-même. Je ne pouvais en détacher mes yeux et, pendant des heures, je l'observais, guettant ses moindres gestes avec une obstination de maniaque. À vrai dire, il ne bougeait guère, et seule sa plume courait sur le papier, avec une aisance que je ne pouvais m'empêcher de lui envier. Mon sosie, ou fallait-il dire mon double, avait, semblait-il, capté l'inspiration qui, depuis quelques jours, me fuyait. Enfin, vers les 2 heures du matin, il se leva, se gratta la tête, bâilla et éteignit sa lampe, plongeant la pièce dans l'obscurité. Je finis par me coucher, me promettant de m'employer dès le lendemain à la solution de ce mystère. À mon réveil, j'identifiai non sans mal l'objet de ma curiosité parmi la centaine de fenêtres qui s'offraient à mes yeux. Et je choisis quelques repères capables de me guider dans ma quête. Puis c'est avec impatience que je m'engageai dans les ruelles d'un quartier qui jamais ne m'avait paru si confus. Vu du sol, il était très différent de l'image que j'en avais de mon 5e étage. Et le nez en l'air, j'eus beau errer et tourner en tous sens, mes repères restaient invisibles. Et je m'embrouillai de telle sorte qu'il me fallut renoncer. Décidément, mon double possédait l'art de se dérober. Quant à moi, les nuits suivantes, je dus admettre que le fil de mon récit m'avait échappé. Je passai des heures, assis devant une feuille de papier, sans pouvoir y tracer le moindre mot, comme si j'avais été atteint de paralysie. Je finissais par me lever, je braquai mes jumelles sur la fenêtre, derrière laquelle l'autre, l'insaisissable, continuait d'écrire, avec une telle régularité que je sentais la jalousie et parfois une espèce de rage s'emparer de moi. Je changeai la disposition des meubles de ma chambre, de telle sorte que désormais, lorsque je m'installai à ma table de travail, je tournai le dos à ma fenêtre, mais rien n'y fit. Constatant une fois de plus mon impuissance, je tentai de me distraire en fumant une cigarette, en lisant un journal ou en écoutant la radio. Mais tôt ou tard, je faisais volte-face et à nouveau j'étais confrontée avec l'insupportable spectacle de l'écrivain inspiré. Une nuit cependant, pour la première fois, la fenêtre resta obscure. Au lieu d'en éprouver du soulagement, je ressentis au contraire une sourde inquiétude. Je m'attardai, me disant que la lampe là-bas finirait par s'allumer, mais je dus me rendre à l'évidence. Je n'avais sous les yeux qu'une masse de ténèbres. La mystérieuse fenêtre jamais ne se ralluma. On eût dit qu'un lourd rideau était tombé après le dernier acte, sur une scène de théâtre. Mon récit, lui, s'était définitivement enlisé. Et je me demandais si l'autre, là-bas, ne s'en était pas emparé pour le faire sien et le conduire avec brio jusqu'à son dénouement. Et qui sait, me disais-je, si un jour, dans quelque librairie, je ne découvrirai pas mon livre achevé, signé par un auteur inconnu de moi, ou plus étrangement encore, de mon propre nom. La lecture que j'ai choisie maintenant est un autre reflet de la personnalité du poète Jean Joubert. Son désir de transmettre aux écoliers cette passion pour la lecture, l'écriture, le roman et la poésie qu'il habitait tout entier. Dans « L'air des cimes », un ouvrage qui rassemble des promenades littéraires dans les Alpes du Sud, au travers des récits de François Billy, quelle ne fut pas ma surprise de retrouver Jean Joubert dans une école du Queyras. Il rencontrait les enfants et présentait son roman « Les enfants de Noé » paru à l'école des loisirs, ce roman qui a obtenu le prix de la Fondation de France pour le meilleur roman pour la jeunesse. Jean Joubert ou les enfants de Noé seront aux Alpins. Est-ce qu'il y a des écoles pour devenir écrivain? Comment avez-vous fait pour que vos premiers poèmes soient imprimés? Est-ce que vous avez eu le prix Goncourt? Quand écrivez-vous? Dans cette petite école du Queyras, les questions fusent en ce samedi matin de printemps. Les élèves des cours élémentaires et moyens ne paraissent pas le moins du monde intimidés par leur invité, l'écrivain Jean Joubert. Prix Renaudot 1975, poète et auteur de nombreux livres pour enfants. Le romancier est lui aussi parfaitement à l'aise. À chaque question, il répond avec une bonhomie souriante mais ferme qui, de toute évidence, séduit son jeune auditoire. Usant de mots simples, soucieux d'être toujours compris de tous, Jean Joubert se présente. Il raconte sa maison dans la garrigue, à une dizaine de kilomètres de Montpellier, sa double activité de professeur, d'université et d'écrivain. « Est-ce qu'il est dur de devenir écrivain ?» demanda Brûle-Pourpoint un petit blondinet. Pas facile de répondre à une telle question. Après un instant d'hésitation, Jean Joubert passe aux aveux. S'il a commencé un jour à écrire, c'est parce qu'enfant, il aimait passionnément la lecture. Il évoque un oncle sabotier qui lui ouvrait sa petite bibliothèque. Il montre ensuite des manuscrits où foisonnent ratures et corrections, puis les mêmes textes tapés à la machine, à l'intention de l'éditeur. Un jeu d'épreuves corrigé en rouge attire ensuite tous les regards. Et les illustrations ? Jean Joubert regrette de ne pas être capable d'illustrer lui-même ses ouvrages. Travailler avec un artiste que l'on ne connaît pas n'est pas toujours chose facile. La concertation se trouve parfois limitée, au strict minimum. Livre en main, les enfants font à présent la différence entre reliure et brochage, entre imprimeur et éditeur. Après la fabrication, c'est sur la diffusion que portent les questions. Bientôt, sur le tableau noir, une série de schémas reconstitue la chaîne du livre, de l'auteur au lecteur. Où prenez-vous vos idées ? Interroge alors une petite voix. Avec des exemples concrets, Jean Joubert s'efforce d'éclairer le mystérieux processus de la création qui entremêle le vécu, l'imaginaire et bien d'autres éléments encore. « Je crois que vous aimez beaucoup l'aventure », remarque quelqu'un. « L'aventure et le fantastique », précise Jean Joubert. « Mais est-ce que vous aimez vos livres ?» La subtilité de la question amuse fort le romancier. « Si je vous dis oui, vous allez penser que je ne suis pas modeste. Si je vous dis non, vous allez croire que j'écris de mauvais livres. En fait, il y en a que j'aime plus que d'autres. J'ai beaucoup travaillé, par exemple, « Histoire de la forêt profonde ». C'est un livre dont je suis assez content. » Et Jean Joubert de lire, à la satisfaction générale, le dernier conte de ce volume. Il y est question de curieux écoliers qui accueillent dans leur classe, de bien étrange façon, un conteur de village. Les savoureuses intonations du lecteur lui valent une salve d'applaudissements. « Vous savez bien lire ?» s'exclame une toute petite fille, étonnée de déclencher un fou rire général. C'est sur la structure même de l'histoire que se développe maintenant un dialogue serré. Il y a ceux qui auraient préféré une fin heureuse, comme dans la plupart des contes traditionnels. Et puis, il y a ceux qui approuvent le choix de l'écrivain et qui n'hésitent pas à donner leur propre explication de la surprenante mort du conteur du village. Quand arrive l'heure de la sortie, on s'arrache littéralement les derniers livres de Jean Joubert encore disponibles dans la bibliothèque de l'école. Devant une telle avidité, le romancier ne cache pas sa satisfaction. C'est pour donner envie de lire, et pas seulement ses livres, qu'il accepte d'aller ainsi dans les classes. La veille, il était d'ailleurs à Tallard pour une double animation, à l'école, puis en mairie, avec des lecteurs adultes. Maintenant, paru à Actes Sud, extrait de l'anthologie personnelle Poésie de Jean Joubert, entre livres, auteurs et souvenirs, voici la bibliothèque. Ici, la bibliothèque dans une ancienne grange où furent percées jadis ses fenêtres, l'une sur le verger, l'autre sur le jardin, le potager. Seul jardin qui m'émeuve, puisque l'enfance encore y souffle des ombelles, la vieille main y fouille la terre, mon père mort, y rôde en côte bleue. Chapeau cassé de toile, tirant au cordeau des allées dans le brouillard, toute pièce donne sur un paysage, et ce paysage lui donne sa lumière et son esprit. Ainsi, la bibliothèque dont j'aime qu'elle soit hantée sur le jardin comme un rameau plus précieux sur le sauvage qui lui apporte sève et vigueur. Pièce reine de la maison, à peine plus pourtant que la cuisine ou que la chambre, où les livres en couches sombres s'accumulent, formant un lourd terreau. Une patrie d'où sortiront une pensée, un autre livre qui les ira rejoindre, chaque saison épaississant le sol. Nul classement, mais je sais où chacun demeure, vivant, ardent, replié sur son riche sommeil, toujours prêt à s'ouvrir, à me parler, à me souffler ce que j'ignore ou que j'ai oublié. Ici, les maîtres près de moi, les grandes sentinelles, toujours veillant dans le soleil des hautes passes. Ils m'ont hissé sur ces terrasses d'où l'on voit l'autre côté, un paysage semblable et dissemblable à celui qui m'en sert, devenu lumière et musique, traversé de corps harmonieux, de beaux visages ineffables. J'y ai vu Béatrice, Laure et Sophie, tant d'autres dans les fleurs et les voiles, souriantes que la mort jamais ne défait. Les maîtres, donc, que je révère, que j'interroge quand la brume qui toujours menace étouffe la vallée où les gouffres bâillent, et toujours ils me répondent, parfois d'une voix si basse qu'à peine j'entends leurs paroles, et parfois, soudain, ils parlent clair. Alors, levant la tête, voyant dans une trouée des étoiles, je reconnais le chemin. Puis les livres de mes amis, passés, présents, assemblés là, comme autour d'une table où flambe le vin. L'un d'eux se lève, lève son verre et me regarde. Pourtant, certains sont morts, d'autres se sont perdus en terres étrangères, et étrangers à eux-mêmes, dans la dérive, ancre rompue, vers l'amertume ou de factice gloire. Death has undone so many. Oui, tant de morts diverses. Mais d'eux, je garde l'image, toujours jeune, d'un temps où s'enflait la voile, où vibrait le navire, pour la conquête en haute mer. Leurs stèles sont serrées ici, dans le silence et le pardon. Mes propres livres aussi, qui occupent une demi-étagère, et le reste sera bien suffisant, même si je sens que presque tout reste à dire, que je n'ai saisi ça et là que quelques minces signes. Il faudrait une autre vie, plusieurs vies, pour atteindre enfin le livre. Peut-être, qui sait, une simple page où tout serait dit dans l'absolue clarté. C'est vers cela que nous allons, le jardin de silence et le sourire immobile. Aussi reprenons-nous chaque fois la même route, avec ses bourbiers et ses mirages, la lâcheté, la paresse, tout ce qui nous écarte et nous égare. Mais parfois, pour un instant, dans cette grange où le soleil poudroie de rêves et de mots, une belle et forte gerbe de blé soudain brille. Thank you. espérant que vous avez aimé entendre ces nouvelles et récits, poèmes autour de cette passion qui animait Jean Joubert. J'avais déjà reçu Jean dans Jardin d'Isis le 13 juin 2013. Lors d'une autre émission, j'ai lu des contes pour enfants écrits par l'auteur. C'était le 14 janvier 2016. On peut écouter ces émissions archivées sur le site www.poesiejardindisis.fr ou sur le forum Georges Brassens Forum Jardin d'Isis ou sur les podcasts de Radio FM+. On peut se procurer les recueils de Jean Joubert en librairie ou sur Internet. Quant à Jardin d'Isis et ses hommages aux poètes vivants dans notre région et ailleurs, c'est chaque deuxième et troisième jeudi du mois de 12h15 à 12h45 sur Radio FM+.